écoutez Prolongation. Prolongation. Avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Nous sommes de retour à l'émission Prolongation un peu plus tard. Notre invité sera Gilles Courteau, le commissaire de la LHJMQ, alors que plusieurs de ses joueurs, sept équipes, sont dans une bulle actuellement à Québec et avec succès, les joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pratiquent leur sport. Maintenant, Danny, on a le plaisir d'accueillir quelqu'un que l'on connaît bien tous les deux, oui. Qui a travaillé comme collaborateur pendant quelques temps, notamment avec le Canadien de Montréal. Il est docteur en psychologie du sport, éducateur physique. Il a écrit plusieurs livres, bien sûr, qui sont des références autant dans le monde du sport que dans le monde des affaires en général. J'ai nommé Sylvain Guimond. Sylvain Guimond, bonjour, bienvenue à notre émission.
Bonjour Martin, bonjour Denis, ça va bien?
Très bien, merci d'être là.
Très heureux d'être avec vous autres, les gars.
Merci d'accepter l'invitation parce que, bien évidemment, ton champ de compétences, Sylvain, bien évidemment, est quelque chose d'intéressant avec ce qui se passe dans l'actualité sportive. On sait que dans les derniers jours, il y a une femme, Madame Nang, qui a atteint les hauts sommets du baseball majeur, étant oui. nommée directrice générale. Une équipe de la Ligue nationale a embauché Brett Peterson comme adjoint au directeur général. Il est le premier Afro-Américain à obtenir un poste de direction, un poste de haute direction dans la Ligue nationale. Et ton dernier ouvrage, La puissance, nos différences, va probablement dans le même sens de ce qu'on entend dans l'actualité. Il est temps peut-être d'ouvrir nos œillères et surtout d'ouvrir les portes à des gens qui vont faire en sorte de changer le paysage aussi dans le sport professionnel.
En vous connaissant toutes les deux, Danny et toi, Martin, je suis certain que vous êtes très heureux de ça parce que moi, je suis vraiment beaucoup. Je suis très heureux de voir que on amène des gens différents, de différentes, en fait, des gens qui arrivent avec, que ce soit des femmes qui commencent à prendre leur place dans le monde du sport, que des gens que c'était difficile, puis notre société n'a pas encore évolué à 100% pour qu'on soit vraiment inclusif, mais mm-hmm. moi, ça me fait plaisir de voir ces belles nouvelles-là. C'est des très, très bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles pour ceux qui sont là depuis longtemps. Là. Je pense à toutes les gens qui ont pavé le chemin pour ces gens-là. Puis là, ça arrive là, maintenant. C'est vraiment une bonne nouvelle.
Sylvain, il y a quelque chose que les gens regardent aujourd'hui ce qui se passe, mais ils voient pas tout le travail qui est derrière. Mmh. Tu sais, ces gens-là, sont pas là parce qu'ils reçoivent une faveur ou parce que il y a un changement de philosophie ou de garde. Il y a aussi tout l'aspect de la compétence qui est en avant-plan.
C'est tellement un bon point. Moi, j'ai jamais eu le sentiment qu'on devait nommer des gens parce que c'était soit une femme ou soit quelqu'un de couleur. J'ai toujours eu le sentiment que les gens devaient être nommés selon leurs compétences et leur savoir-être.
Ouais. Mm-hmm.
Parce que le savoir, c'est une chose, le savoir-être, c'est une autre chose. Mais selon leurs compétences et leur savoir-être. Et là, en ce moment, les gens qui sont nommés ont vraiment les deux de façon très élevée. Donc, pour moi, je trouve que ça, c'est vraiment rendre honneur à ces gens-là, non pas par leur différence, mais parce qu'ils sont extrêmement compétents, puis parce qu'ils l'ont travaillé, ils l'ont mérité, où ils sont rendus aujourd'hui.
Tu dis dans le livre, Sylvain, notamment, que la couleur de la peau, le sexe, la religion, la culture ne devraient pas éloigner les gens ou permettre de fermer des portes, au contraire. Est-ce que la société sportive est prête à tout ça, quand même, malgré tout?
Je pense que la société sportive est pas différente de la société en général. Et je pense que dans les deux cas, ça commence à changer. Par contre, on peut le voir, il y a encore beaucoup de résistance. Puis c'est la même chose dans le monde du sport. C'est une question qu'on doit se poser de façon individuelle. Est-ce que moi, je suis inclusif avec les gens? Est-ce que j'ai tendance? Puis certains d'entre nous, des fois, on n'est pas tout parfait. Puis on a des fois des commentaires qu'on le fait intérieurement, puis on se dit, ben non, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Et c'est là qu'il faut qu'on change chacun personnellement, parce que ce qui nous divise, Martin puis Danny, c'est pas nos différences qui nous divisent, c'est nos croyances. C'est quand on n'accepte pas des opinions différentes, quand on n'accepte pas cette partie-là, puis qu'on reste ancré dans nos croyances, mais ça nous divise. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Tu sais, le premier chapitre, il porte sur la différence des différences, la différence individuelle. Ensuite, le deuxième, c'est générationnel entre les différents groupes d'âge. Ensuite, sexuel, ce qu'on a parlé tantôt, puis l'orientation ouais. sexuelle. Ensuite, c'est culturel, donc d'où je viens, puis la culture que j'apporte. et ensuite c'est cultuel. Le culte, pour moi, ça demeure quelque chose qui doit rester personnel parce que c'est sur une croyance et non pas sur des faits. Et le dernier, j'ai appelé ce dernier chapitre-là, je l'ai appelé la différence universelle. Et quand je dis différence universelle, c'est que lorsqu'on regarde dans le bagage génétique de chacun d'entre nous, on est pratiquement identique. Donc, je sais pas pourquoi on en fait une si grosse affaire quand, en bout de ligne, on est pareil.
Tu sais, Sylvain, ce qui est assez fascinant, c'est que souvent, là, c'est qu'il y a des obstacles à l'entrée. Ces gens-là, qui viennent de toutes sortes d'horizons, il y a comme un filtre à l'entrée. Souvent, c'est très difficile pour eux d'avoir accès à des postes qui vont leur permettre de monter dans la hiérarchie. C'est difficile aussi pour eux d'être reconnus à leur juste valeur. Comment on pourrait faire pour s'assurer que ces gens-là sont comme les autres reçus, tu sais, que tu sois reçu en entrevue quand tu as les compétences? Est-ce qu'il faut envoyer des CV puis s'assurer qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'identité sur le CV?
Il n'y a pas de H ni de F, là, oui.
C'est ça, on envoie ton CV puis après ça, on dit, OK, j'aime le profil, je vais aller en savoir plus. Alors là, la personne se présente, faudrait faire le processus à l'envers, quoi.
Pour le vrai, je suis tellement d'accord avec toi, ce serait vraiment une bonne façon de faire. Parce que, en ne le sachant pas, on n'aurait pas de préjugés au départ. Et peut-être qu'on serait surpris. Mais ce que j'aime dans ce que tu viens de dire, c'est que lorsque on se fie aux compétences, lorsqu'on se fie aux habilités, parce que c'est vrai dans le monde des affaires, mais c'est vrai dans le monde du sport. Puis aujourd'hui, s'il y a une place qu'on peut dire que la vie, c'est du sport, c'est vraiment ça. On vit la même chose. Le sport, c'est une micro-société. Et on vit exactement, tu sais, on doit collaborer, on doit coopérer, on doit être capable d'être en opposition, d'être capable d'avoir de l'estime de soi, tout ça, là, c'est ce qui sert dans la vie de tous les jours, puis t'en parles constamment, vous en parlez constamment, que on va en prendre ce bagage-là des jeunes qui font du sport, puis ils vont être capables éventuellement de devenir des leaders de demain parce qu'ils ont vécu dans le monde du sport. Donc, moi, je me réfère toujours à une dame avec qui j'ai étudié aux États-Unis qui s'appelle Dr. Christina Vassori. Imagine une femme qui est en charge de la psychologie du sport pour la NBA. Une femme. Pendant 16 ans, elle était à la tête de la NBA pour tout ce qui était de la psychologie dans la NBA quand il y avait des problèmes, puis chaque équipe demandait à ce qu'elle les rencontre. Et pendant 16 ans, elle a fait les tests de personnalité de toutes les équipes. Et pendant 16 ans, sans exception, toutes les équipes qui ont fini champions étaient des équipes faites de personnalités les plus variées à l'intérieur de la Ligue.
Non,
donc, c'est surprenant. Plus on a de gens qui sont différents dans une équipe, plus si on apprécie la différence de l'autre, ça fait une équipe qui brasse, mais ça fait une équipe vraiment complémentaire.
L'important,
c'est l'important,
c'est qu'ils puissent trouver une façon de se rassembler. Puis souvent, autour de ça, c'est là où tes points communs, c'est là où tu te ressembles.
C'est là que le leadership est extrêmement important.
La puissance du leadership, absolument.
C'est tellement puissant d'avoir une même vision, d'avoir le même endroit, même si on est différent, qu'on accepte qu'on vise les mêmes objectifs ensemble puis qu'on se respecte l'un et l'autre, surtout dans nos différences.
Très rapidement, excuse-moi Martin, je veux juste poser la question à Sylvain. Pourquoi, Sylvain, on n'a pas plus de reconnaissance des compétences des femmes? Tu sais, une femme qui vient du hockey féminin, elle a les mêmes, elle est capable d'enseigner à patiner, est capable d'identifier un talent, un bon joueur au masculin, on va dire ça comme ça, là, dans le hockey masculin. Pourquoi ça prend autant de temps dans notre milieu du hockey d'avoir cette reconnaissance?
Tu veux peut-être que vous n'aimerez pas ma réponse, mais c'est parce que l'homme, on est très macho, on est chauvin, puis on pense que c'est un sport qui appartient à l'homme, on pense que le sport, et on est tellement d'impatates quand on pense ça, c'est triste.
Encore aujourd'hui, Sylvain, tu penses que c'est encore répandu aujourd'hui?
Oui, écoute, on a encore des gens qui ont des vieilles mentalités, là, c'est pas encore passé, j'espère que ça va changer, mais c'est un sport un peu de macho qui pense que c'est pour les hommes, puis que c'est pas la place au niveau des femmes, mais c'est tellement triste parce qu'ils ont tellement des choses différentes à nous apporter par leur façon d'être. Tu sais, je regarde juste là comment on est très différents les hommes des femmes dans une façon d'être. C'est justement dans la dépression. Il y a trois fois plus de femmes que d'hommes qui ont un diagnostic d'une dépression ou d'un burn-out au travail. OK? Trois fois plus de femmes que d'hommes. Mais pourtant, Danny et Martin, il y a trois fois plus d'hommes que de femmes qui s'enlèvent la vie. Ça voudrait dire que les femmes y ont plus de couilles que les gars? Je pense que oui. Eux autres sont capables de parler de nos émotions pendant que nous autres, on parle du Canadien de Montréal. Puis le lendemain, il y en a une des autres qui s'enlève la vie, puis on se dit, mais bon sang, pourtant hier, il va bien aller, hein? Ouais. C'est ça, exactement. Parce qu'on parle pas de nos émotions, mais c'est un peu la même chose quand on n'accepte pas les femmes à venir avec nous autres, mais c'est parce que on a encore une vieille mentalité.
Ça nous réconforte d'être juste on boys, quoi?
Ouais, c'est comme, je pense qu'on a peur que, on a peur de voir notre infériorité après tout.
T'as peur d'ouvrir des portes, peut-être, Sylvain, aussi, ouvrir des portes qu'on veut laisser fermer, là. Entre gars, je parle.
Exactement. Peut-être que ça nous ferait réagir de dire, hey, on voit les choses différemment. Puis là, on vient de réaliser que peut-être j'ai certaines faiblesses. Peut-être qu'il y a des choses que je devais changer. Mais j'ai pas voulu faire face à ça. Donc, qu'est-ce qui est facile à faire? C'est de mettre les gens à l'extérieur pour pas voir ma propre réalité à moi. Quand je suis avec quelqu'un différent, ce que ça fait, ça me fait voir moi-même différemment. Puis quand je me vois différemment, tout ce que je peux apprendre de moi, c'est que je vais juste puiser un peu plus loin pour apprendre à mieux me connaître. Puis souvent, les gens veulent pas aller là parce que ça peut être justement des blessures qui veulent pas faire face. Donc moi, je pense, plus on est différent, plus ça nous fait réaliser comment, wow, je n'avais pas vu cette façon-là de voir les choses, puis de surtout avoir le respect de l'opinion de l'autre, même si c'est pas si l'autre ne pense pas comme moi ou que l'autre n'est pas comme moi.
Je reviens à Madame Nang pour tous les deux, Sylvain Guimond et Danny, parce que quand on analyse le CV de Madame Nang, le CV est impressionnant. C'est 30 ans à travailler dans le baseball. Elle a aussi travaillé dans des équipes qui ont gagné la Série mondiale à 3 reprises. Elle a croisé un dénommé Derek Jeter, qui est un grand joueur et qui est devenu le propriétaire de l'équipe qui l'a embauché comme directrice générale. Ça, c'est une situation, mais quand on voit le parcours de Madame Nang, on voit beaucoup de résilience, Sylvain, particulièrement. Oui. Beaucoup de patience, détermination, de passion probablement pour le baseball. Et c'est long, gravir les échelons. C'est probablement encore plus long quand on est une femme et qu'on courtise les milieux masculins de façon générale, comme le sport professionnel. Est-ce qu'il y a assez de résilience pour que les femmes arrivent jusqu'au bout? Parce qu'inévitablement, les gens qui y arrivent, c'est parce qu'ils ont sacrifié beaucoup et ils ont mis beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts là-dedans.
Les gens qui arrivent lorsque tu es une femme dans un monde d'hommes, il faut que tu sois encore meilleur qu'eux, puis de beaucoup. Et on le voit avec le Canadien de Montréal. Je suis très heureux en ce moment. Il y a quelqu'un près de la direction qui est une femme, puis c'est tant mieux. Puis on voit que c'est de plus en plus ouvert. Mais je peux être certain que pour arriver à ce niveau-là, il faut que les femmes soient de beaucoup supérieures aux hommes au niveau de leurs compétences et de la façon de le transmettre, puis de la façon dont ils sont perçus aussi, ça prend du temps. Mais la compétence et le savoir-être finit toujours par sortir, puis là, on les reconnaît. Et ça, je leur dis à toutes les jeunes filles qui rêvent de ça, là, ben continuez parce que vous allez nous rendre meilleurs comme hommes.
C'est
plus
sûr.
Plus il y aura de femmes à qui vont partager des postes comme ça avec des hommes, plus les hommes deviendront des vrais hommes qui vont être capables d'être plus à l'écoute, puis on va apporter la belle couleur que les femmes ont, puis l'inverse c'est aussi vrai. C'est les deux on va être complémentaires les deux l'un pour l'autre.
Je compléterai ton point, Sylvain, en parlant de l'importance d'avoir un réseau. Donc, on parle du sport, là, parlons du hockey particulièrement. Nous, on est issus du hockey, d'avoir un réseau qui est inclusif.
Oui.
Tu sais, d'avoir un réseau qui permet à des femmes de postuler sur des jobs de hockey.
Oui.
Pas sur un tu sais, c'est correct que les tâches administratives, elles s'en prennent, il y a plein de la diversité partout. Mais actuellement, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a pas de gens décisionnels au féminin dans les rôles importants dans le milieu du hockey. Qu'on permette à des femmes d'être recruteurs ou recruteuses, appelez ça comme vous voulez, là, d'être adjoint au directeur général, adjointe donc, des personnes qui prennent des décisions au niveau du personnel hockey, qui évaluent du talent, qui travaillent dans différents secteurs, qui vont faire que assistant-entraîneur, responsable du vidéo, n'importe quel, tous ces rôles-là actuellement appartiennent trop à une catégorie ou à un profil. Puis c'est là, je trouve, où on a un devoir comme réseau, donc comme société, mais comme réseau de sport. Là, on parle du hockey sur glace, d'être beaucoup plus inclusif puis d'avoir l'esprit ouvert parce que dans le fond, s'il y a du talent, et comme tu dis, du savoir-être, ben c'est le réseau qui va grandir.
Moi, j'ai toujours cru qu'un jour ou l'autre, Mme Sauvageau serait nommée dans un poste comme ça. On l'a ici, on l'a, puis elle l'a prouvé, là, un CV incroyable. Ben j'ai pensé qu'un jour, il y aurait la Ligue nationale ou quelqu'un y offrirait un poste à ce haut niveau-là. J'espère qu'il écoute en ce moment, puis que quelqu'un va lui donner sa chance, parce que ce serait un beau modèle pour les autres qui vont suivre. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que dans des rôles vraiment de hockey et vraiment le hockey le staff au niveau hockey, qu'on les inclut avec nous. Je pense que ça serait une bonne chose pour le monde du sport, pour le monde du hockey.
La seule actuellement là, qui évolue permettez-moi l'expression, dans un staff hockey là, dans la Ligue nationale, c'est Hayley Wickenheiser qui est à Toronto et qui fait du développement avec notre ami Stéphane Robida qu'on connaît bien. Là. C'est la seule qui est au niveau des gens de hockey dans la Ligue nationale. Il y a aussi, Sylvain Guimond et Danny, il y a aussi un autre phénomène qu'on verra, je l'espère, bientôt, qui est de plus en plus présent dans le sport professionnel. C'est arrivé récemment dans le hockey où un agent de joueur, Bane Pettinger, le frère de l'autre Pettinger qui a joué dans la Ligue nationale de hockey, qui est sorti du placard, qui a avoué son homosexualité sur la place publique. Il est agent de joueur et il a reçu tout de suite l'appui de certains de ses clients très importants, messieurs Crosby et McDavid. Vous allez dire que ça va bien dans ce temps-là, mais en même temps, Sylvain, là aussi, je pense que la société sport a encore beaucoup de chemin à faire. Il y en a qui le font, mais il y en a beaucoup trop qui ont beaucoup trop peur des conséquences d'une sortie de placard comme ça, là.
Je pense que c'est pour les mêmes raisons qu'on parlait tantôt de gens qui sont un peu... en fait, qui n'ont plus notre place de penser de façon à être chauvin, puis à être différent, puis de porter des jugements sur les autres, que ce soit des hommes, des femmes... plus on va laisser les gens vivre librement dans leur façon de ce qu'ils sont, plus on aura une société vraiment riche à tous les égards. Donc, j'en rêve vraiment profondément que ça puisse vraiment faire en sorte que ça va encourager des jeunes à le dire. Là, on a vu des jeunes au niveau junior, on a vu un justement à l'extérieur qui l'a dit. Ça commence à se dire un peu, puis ceux qui le sont, mais plus il y en aura qui vont aller de l'avant, puis le dire, puis vivre librement, parce que ça doit être terrible de vivre une vie en n'étant pas soi-même. C'est le fardeau de ce secret-là qu'ils doivent garder en dedans d'eux, ça doit être extrêmement difficile à vivre. Donc, quand ils s'en libèrent, je pense que ça fait que la société au complet s'en libère aussi. Là, on a plus être sur des jugements comme ça. C'est inacceptable. Puis il faut se le dire. Puis il faut surtout faire en sorte que tout le monde qui sont avec des gens qui portent des jugements, qui ont quelque chose qui est un comportement qui est inacceptable, mais quand on a dit mot, on consent. Et si quelqu'un n'a pas un comportement convenable à côté de nous, c'est notre devoir à nous de dire non, ça se dit pas, c'est inacceptable, puis moi, je n'accepte pas ces commentaires-là. Et si quelqu'un vous dit un commentaire qui n'est pas pour vous, dites-le tout simplement, je suis désolé, ce commentaire-là ne m'appartient pas, je te le redonne.
Sylvain,
comment la personne en face de vous va réagir.
Ben, c'est clair. Sylvain, il y a des gens qui sont dans ces situations-là où ils sont des minorités, autant au niveau de leur sexe, couleur de peau et tout ça, qui ne veulent pas devenir, entre guillemets, des bêtes médiatiques parce qu'ils ont parlé ouvertement de leur vie, que ce soit leur orientation sexuelle ou, par exemple, être la seule femme comme directeur général d'une équipe de baseball. Tu veux pas être traité différemment des autres. Il y a aussi ça qui vient rentrer en ligne de compte quand un processus comme ça arrive pour une personne qui représente une différence par rapport à la masse.
Martin, c'est un très, très bon point que tu apportes. Souvent, les gens vont le garder, non pas parce qu'ils ne veulent pas le dire, mais ils ne veulent pas être traités différemment aussi. Mm-hmm. Ça, mais aussi tout le fardeau que c'est au niveau média quand ça va aller sur eux. Sauf que ce serait tellement bon pour tout le monde, pour eux, je pense que ça libérait, mais je pense que ça fait du bien à toute la société. Je sais pas personne, moi, j'ai pas entendu personne dire, la personne est sortie du placard, puis voici, ils l'ont abaissé. J'ai pas entendu ça. Et j'espère que ça arrive pas. J'espère que les gens sont assez de discernement, capable de maturité pour dire, écoute, pense que c'est bien ce que les gens ont décidé de faire, donc de vivre leur vie eux-mêmes, puis qui je suis moi pour juger l'autre,
t'sais. Ben, est-ce que tu penses que la qualité, est-ce que tu penses que le fait d'être plus ouvert va créer justement un nouvel environnement? Est-ce que tu penses que, je donne un exemple, là, chez les juniors, exemple, ou dans les équipes midget, les plus petites catégories,
à la base,
c'est eux qui montent, c'est là que ça se passe. Là. Est-ce qu'on est sûr que l'inclusion fait partie intégrante de la démarche des entraîneurs? Est-ce qu'on devrait pas avoir une démarche un petit peu plus structurée? Est-ce qu'on devrait pas avoir des conférenciers, conférencières qui viennent justement expliquer leur point de vue, qui viennent de d'autres communautés ou qui ont des orientations différentes ou simplement une femme qui intervient dans le milieu du sport masculin, est-ce que ça devrait pas faire partie justement de toute cette démarche éducative pour justement changer notre environnement pour faire de notre environnement sportif, celui du hockey, un meilleur environnement pour notre jeunesse de demain?
Tellement raison. Je pense que ça devrait être obligatoire qu'on expose les jeunes à ça. Qu'on leur dise, puis qu'on dédramatise, puis qu'on arrête. Plus ils vont en voir, plus ça va devenir normal, plus ça va être correct. Plus, j'espère, la Ligue nationale va donner l'exemple. C'est extrêmement important de faire ça, parce que faut pas se le cacher, la Ligue nationale, c'est un peu le modèle que tout le monde suit un peu, parce que, tous les jeunes y rêvent d'y aller, autant les jeunes garçons que les jeunes filles. Donc, on a vu Manon Réon m'arriver dans la Ligue nationale. Moi, j'ai été comme « wow, quelle belle surprise ». Et là, depuis ce temps-là, on n'en voit pas encore, mais il n'y a pas de raison qu'un jour ça puisse pas arriver. Je me souviens, personnellement, je suis vraiment choyé dans ma vie. J'ai eu à travailler avec Tiger Woods, puis cette journée-là, j'étais avec lui la première fois que je l'ai rencontré. Il était avec Annika Sorenstam. Il était en train de lui donner des conseils pour qu'elle puisse jouer sur le PGA, non pas seulement sur LPGA, mais vraiment la PGA. Et j'étais là. Et là, je fais l'évaluation avec lui. Et il dit, Sylvain, on a 5 minutes entre les deux, j'ai de quoi aller corriger sur ma swing, je reviens. Il part 2 heures de temps, je dis, il reviendra jamais. Il revient au bout de 2 heures. Il dit, il voulait savoir son évaluation. Et lorsque j'ai eu fini, là, Danny est parti. Puis il dit, est-ce que tu me permets d'aller chercher quelqu'un? Il va chercher Annika Sorenstam, il la ramène avec lui, il dit, peux-tu y faire l'évaluation? Et là, quand j'ai fait l'évaluation, c'est lui qui l'explique au complet. Donc, des joueurs comme ça qui ont ce niveau-là et qui sont inclusifs avec les femmes. Voyons, c'est la. Puis ça, j'ai vécu ça, c'était en 2003. Imaginez, au moment où il était au sommet de son art. Puis il y a eu cette gentillesse-là, l'esprit d'aller la chercher, de l'aider. Moi, j'ai été, peu importe ce qui est arrivé avec tout ce qui s'est passé avec Tiger Woods par la suite, moi, tout ce que je peux me souvenir de cette première journée, ma première rencontre avec lui, les autres ont été fantastiques, les autres rencontres que j'ai eues avec, mais celle-là, j'ai été impressionné par sa gentillesse, son ouverture et surtout aider une femme, en fait, à jouer sur le PGA.
Les meilleurs ont toujours eu quelque chose de spécial, Sylvain.
Mais c'est pour ça que vous êtes spécial,
toi aussi, t'es spécial.
C'est pour ça qu'on apprécie ta présence et les conversations qu'on a avec toi. Ça passe toujours trop vite, Sylvain Guimond. Je rappelle à nos auditeurs, La puissance, nos différences, c'est votre dernière parution, c'est le dernier bébé. Il est disponible actuellement?
Il est disponible, oui, il est en librairie depuis le début de ce mois-ci.
Sylvain, merci beaucoup pour ta participation à notre émission. Notre invité était Sylvain Guimond. Il est docteur en psychologie du sport. On s'arrête pour quelques messages et au retour, le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, est avec nous.
Vous écoutez Prolongation avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Nous sommes de retour à Prolongation, édition du 21 novembre. Danny, c'est avec beaucoup de plaisir maintenant qu'on accueille, tel que promis, le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, M. Gilles Courteau. Gilles, bonjour, bienvenue à notre émission.
Ça fait plaisir.
M. Courteau, bonjour.
Bonjour, M. Dubé.
Gilles, certainement que quand vous avez imaginé placer cette équipe au centre Vidéotron pour pouvoir jouer des matchs, aviez-vous idée que ça pouvait peut-être aussi bien se passer que ça se passe actuellement? Est-ce que vous aviez envisagé quelque chose d'un peu plus pessimiste que ce qui arrive au moment où on se parle?
Bien, le seul point qui était peut-être un petit peu plus stressant, c'était d'avoir fait tester nos équipes avant d'entrer au centre Vidéotron. Puis j'avais été clair avec avec nos clubs que s'il y avait un joueur ou un membre d'organisation qui testait positif, l'équipe pouvait pas entrer et participer aux activités. Alors, puis les clubs avaient été mis en confinement 14 jours avant d'entrer au centre Vidéotron. Alors, ça, c'était respecté à la lettre. On a eu les résultats négatifs pour tous nos clubs, nos officiels, puis le personnel de la Ligue qui est là. Fait que ça a été un très, très grand soulagement qui démontre encore le travail qui a été fait par nos clubs à cet effet-là et surtout la discipline de nos joueurs qui ont respecté le confinement.
David. Dites-moi, M. Courteau, quand on regarde ce qui se passe dans... Bon, les activités de sport professionnel, on comprend ce qui motive les organisations à vouloir retourner au jeu. C'est l'argent. Mais qu'est-ce qui motive la Ligue junior majeure à retourner au jeu ou à agir de la façon dont vous le faites en créant cet environnement sécuritaire?
Ce qui nous a motivés depuis le mois de juillet dernier, quand on a commencé à parler du retour au jeu, c'était de s'assurer qu'on était pour garder nos joueurs chez nous, qui n'iraient pas à l'extérieur. Exemple, puis aujourd'hui, je peux le partager parce que c'est connu, il y a près de 100 joueurs de la Ligue de l'Ouest et de l'Ontario qui sont partis jouer aux États-Unis ou en Europe. C'est l'équivalent de 5 équipes, ça, là qui ont
quitté.
Et c'est énorme. Puis là, tu sais pas si tu vas reprendre les activités en janvier ou en février, telles que c'est prévu par ces ligues-là. Ça, c'était notre élément numéro un, c'était de protéger nos joueurs, les garder chez nous dans la Ligue junior majeure du Québec, protéger les emplois de nos différentes organisations, avec autant le personnel entraîneur, de soutien administratif. D'être en mesure de faire ça, mais c'était la priorité numéro un, c'était de permettre à nos joueurs de jouer. C'est de permettre, exemple, Danny Dubé est dans sa deuxième année suivant sa séance de sélection, puis qu'il doit se faire évaluer une dernière fois avant de savoir s'il va signer un contrat ou pas. C'est le joueur qui vient d'être sélectionné, puis qui doit se faire évaluer. C'est le joueur qui est éligible à être sélectionné, puis qui doit également démontrer son talent au recrutement de la Ligue nationale. Ce sont tous des raisons qui, pour le bénéfice des joueurs, qui justifient notre décision d'avoir repris l'activité en octobre dernier.
Gilles, vous avez eu une bonne dernière sélection en octobre quand même. Ça s'est bien passé pour la Ligue du Québec. Parce qu'on parle pas seulement des joueurs québécois, mais on parle de la Ligue du Québec. Vous avez des joueurs européens, vous avez des Américains également qui évoluent dans votre circuit, des joueurs d'un peu partout. Avez-vous le sentiment qu'au moment où on se parle, étant donné que vous êtes la seule Ligue de développement vraiment qui joue, là, à part peut-être quelques collèges américains, là, quelques divisions qui ont décidé de jouer, pensez-vous que vos joueurs vont mieux paraître justement? Avez-vous l'impression que vous aurez l'occasion de, entre guillemets, de placer vos gars plus facilement?
Mais moi, il n'y a aucun doute là-dessus que l'évaluation de nos joueurs va leur donner un avantage parce que on est en compétition. Et ça, il y a aucun doute à cet effet-là. Même si l'accès aux différents amphithéâtres, c'est pas toujours facile pour les recruteurs. À titre d'exemple, dans l'événement de Québec, on présente 21 matchs, mais aucun de ces matchs-là peut être vu par les recruteurs sur place. Alors ça, c'est peut-être un élément négatif, mais en accord avec la santé publique pour respecter les règles à cet effet-là. Alors, ceci étant dit, je suis convaincu que le fait que nos équipes jouent, que ça va être un élément additionnel pour eux autres qui va être positif.
Avez-vous des conversations avec vos homologues, Gilles, de l'Ontario et de l'Ouest? Est-ce que, voyant ce qui se fait ici actuellement, est-ce qu'ils regrettent de ne pas avoir mis une structure comme ça sur pied? C'est quoi le feeling que vous avez des deux autres ligues canadiennes?
Ouais. C'est une très bonne question, Martin. L'objectif des trois ligues, si vous vous souvenez, là, puis que vous regardez dans les différentes revues de presse, ça a toujours été de vouloir partir les trois ligues pratiquement en même temps. La Ligue de l'Ouest et de l'Ontario ont été longtemps à dire que c'était business as usual qui repartait au mois de septembre. La problématique que ces deux ligues-là ont eue, qui est venue contrecarrer leur plan, c'est la fermeture des douanes. Ces deux ligues-là ont des joueurs des équipes américaines. Alors, c'est ça qui fait que le début de saison a pas eu lieu comme nous autres c'était prévu. Puis après ça, ben l'évolution de la pandémie est arrivée. Et nous autres, si on n'était pas partis en octobre, j'ai aucune garantie qu'on jouera au hockey aujourd'hui. Même sans avoir d'équipe de club américain, il y a rien qui me garantit qu'on serait en opération aujourd'hui. Je pense que le fait d'avoir débuté notre camp d'entraînement au mois d'août, puis d'avoir lancé notre saison au mois d'octobre, nous permet d'évoluer aujourd'hui, malgré l'évolution de la situation au Québec sur la pandémie, puis le nombre de cas, etc. Ça aurait été une approche complètement différente de la part de la santé publique à cet égard-là, je suis certain.
Pensez-vous que le fait, maintenant qu'ils regardent ça, l'Ouest et l'Ontario préconiseraient également le système, on va appeler ça une bulle, là, mais un environnement clos, un environnement fermé, pour au moins avoir les équipes canadiennes qui jouent?
C'est ça. Et c'est un bon point parce que là, ils m'ont demandé notre protocole qu'on a mis en place pour réaliser cet événement-là. Et c'est certain qu'ils vont le regarder parce que dans le moment, on prend exemple la province de l'Ontario qui, à part les clubs américains, ils opèrent tous dans la même province. Alors à partir de là, c'est certain que ce volet-là va être un facteur important pour eux autres pour pouvoir envisager la situation de reprendre leur activité.
Des fois, il y a comme des affaires qu'on n'a pas soupçonnées qui arrivent, un contre-coup, une espèce de collatéral. Tu sais, les effets collatéraux, des fois, on dit « wow ». Mais là, ce que vous êtes en train de faire actuellement à Québec, ça ouvre la porte aussi à tout l'aspect de la santé mentale. Tu sais, on parle beaucoup des jeunes qui sont un peu dépressifs, etc. Vos jeunes, là, vous les gardez occupés, ils vont à l'école, ils ont des activités. Et vous le dites, là, les jeunes ont le sourire aux lèvres. Ça, c'est pas un des éléments qui va ressortir, un des éléments forts qui va ressortir lors de votre rapport avec la santé publique?
Il y a aucun doute là-dessus. C'est un facteur qui est important parce que, comme tu le mentionnes, Danny, tu sais, on a été un bout de temps où est-ce que les 12 équipes du Québec ont été arrêtées de jouer pendant 2 semaines quand l'évolution des zones rouges est devenue assez importante. Même s'il y avait des équipes en zone jaune ou orange, ils pouvaient plus être on avait décidé que les 12 équipes arrêtaient de jouer. Là, aujourd'hui, notre expérience que l'on vit. On a déjà des villes qui manifestent un intérêt pour recevoir un événement comme celui-là, puis on verra comment est-ce que ça va évoluer. On va terminer cette expérience-là, mais c'est positif pour les joueurs. Là. On le sent. Les clubs, les directeurs gérants ou les entraîneurs-chefs nous en parlent. De la réaction des joueurs sont excités, ils vivent une belle expérience, puis ils peuvent jouer au hockey. Fait que ils vont à l'école, puis tout est plus facile. Il n'y a plus d'incertitude. Ouais. Mais là, on ne sait pas si on va jouer en fin de semaine. Là, tu arrives le mercredi ou le jeudi, puis là, la Ligue, on rend une décision, on reporte des matchs parce que on n'est pas en mesure de... On n'a pas eu le feu vert de la santé publique ou il y a une autre ville qui vient de tomber en zone rouge, ça annule des matchs. T'sais, on a eu plusieurs décisions comme ça à prendre qu'on savait qu'on était pour avoir à prendre à un moment donné, mais on a eu à vivre avec ça. Puis ça, c'est dans 2 ans, 5 ans, 10 ans d'ici, ces joueurs-là vont se souvenir de ce qu'ils ont vécu comme expérience. Je suis certain ça va leur être bénéfique.
Gilles Courteau, merci beaucoup de cette participation à notre émission. On va vous souhaiter une bonne continuité avec ce que vous faites actuellement à Québec. Et on va souhaiter qu'il y en aura aussi après les fêtes du hockey junior chez nous.
Absolument.
C'est un plaisir. Merci beaucoup, messieurs.
Au revoir, Gilles.
Merci beaucoup.
Bonjour. On s'arrête pour une pause, mesdames, messieurs. Dans un instant, le commentaire de Danny et la fusillade pour conclure l'émission. Restez là.
Prolongation avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Comme c'est notre habitude de maintenant à chaque semaine, on va terminer cette émission, mon cher Danny, avec la fusillade. J'espère que tu seras prêt. On a quelques points intéressants à toucher, mais avant, évidemment, ton commentaire éditorial, ça fait du sens parce que on a consacré une bonne partie de notre émission à ce sujet. La place des femmes, ces places-là se prennent de plus en plus. C'est une bonne nouvelle. Le hockey maintenant, est-ce que le hockey fera une place un peu plus prépondérante aux femmes dans les prochaines années, Danny?
C'est un incontournable. Je pense que Bon, la Ligue nationale se veut inclusive, on en parle de plus en plus, il y a des journées sur ces thématiques, je trouve ça extraordinaire. Maintenant, passons à l'action. Ce que ça veut dire passer à l'action, ça veut dire de s'assurer qu'il y a des postes qui sont ouverts pour des femmes. Et quand je dis ouverts, c'est-à-dire pas de leur donner les postes, mais qu'ils soient appelés en entrevue, qu'ils puissent participer au concours qui donne accès à ces postes décisionnels. Éventuellement, une femme pourra devenir directeur général dans la Ligue nationale de hockey, même entraîneur, pourquoi pas, assistant entraîneur, responsable du vidéo, préposé à l'équipement ou même préparateur physique. Tous ces postes-là, il n'y a pas de frontières en ce qui me concerne. La compétence fait foi de tout, Martin. Et actuellement, je trouve que on doit commencer, nous, au Québec, à être des précurseurs, à être des leaders. La Ligue Midget 3, la Ligue Junior Majeur du Québec sont des réseaux qui, pour moi, ouvrent des portes vers le hockey professionnel. La Ligue américaine de hockey doit également être un plateau, une espèce de tremplin pour tous ceux qui veulent atteindre les plus hauts sommets, soit le sport professionnel. Et en hockey sur glace, on a une équipe de la Ligue américaine ici. Oui, la Ligue nationale, c'est important, mais c'est encore plus important ici au Québec avec le Canadien de Montréal. Pourquoi ne pas avoir une recruteur québécoise qui fait l'évaluation du talent au Québec, ajouter au personnel déjà existant. Pourquoi la Ligue junior majeure du Québec n'ouvre pas ses portes de façon plus significative à différents rôles à l'intérieur de ces structures? Même chose pour la Ligue Midget 3, où on parle vraiment là du bassin de joueurs qui fournit l'élite du Québec, où là vraiment on pourrait bâtir quelque chose, Martin, en sensibilisant les jeunes, en ayant des programmes d'intégration, en permettant à des jeunes filles de faire partie du personnel d'entraîneur ou encore partie intégrante de la structure, et je parle du département hockey, et ça c'est bien important de le mentionner parce qu'il y a une ouverture d'esprit. Je sens qu'il y a un mouvement qui s'amorce, mais ce mouvement doit prendre une autre forme, et cette forme c'est celle du département hockey. Je pense que c'est là où il y a un manque, et il y a de plus en plus de filles sur l'équipe nationale du Canada. On a une équipe du Québec qui regorge de talent. Il y a vraiment beaucoup de joueuses qui ont du bagage, du bagou, et je pense que le talent, c'est du talent qu'on peut pas gaspiller, c'est du talent qu'on peut pas laisser passer.
Et Danny, pour donner un exemple concret sur ce que tu viens de dire, quand Caroline Ouellette est capable de diriger un programme universitaire féminin, elle pourrait très bien le faire du côté des hommes, puis elle pourrait très bien, si elle le voulait, aspirer à des niveaux plus élevés. Elle les a, les compétences, puis son CV est garni de médailles, de championnats, et c'est une leader de grande qualité, ça a été reconnu, là.
Absolument. Et tu sais, il y a beaucoup aussi de jeunes filles qui sont très talentueuses, qui ont connu des belles carrières de joueuses et qui sont prêtes à faire un virage et à continuer à être impliquées dans le hockey. Ces personnes-là peuvent être impliquées dans les différents départements de hockey, soit au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, au niveau du recrutement du talent. Je pense que là, il y a une ouverture, parce que je pense que c'est une des portes qui conduit vers la Ligue nationale, dans un poste de recruteur, mais aussi pour autres fonctions dans la Ligue nationale au niveau du développement des joueurs, etc. Même chose dans la Ligue américaine de hockey, mais surtout, et moi je m'attarde particulièrement à ce qui se passe à Hockey Québec, qu'on ait plus de femmes sur le conseil d'administration, dans les rôles décisionnels, et à partir de ce moment-là, on pourra avancer.
Je vais prendre 30 secondes de plus, Danny, et avoir ton commentaire bref là-dessus, mais c'est une nouvelle importante. Vendredi, Isabelle Charest, la ministre déléguée à l'éducation et au sport, a annoncé la création. C'est un officier indépendant qui va traiter les plaintes qui ont rapport au harcèlement et tout ça dans le sport amateur, dans les fédérations québécoises de sport. Ça s'est jamais fait, et cet officier indépendant ne sera pas lié aux fédérations, et c'est le gouvernement qui va rémunérer ces gens-là qui auront à enquêter sur des plaintes quand il y en aura, pour protéger nos enfants, nos jeunes femmes, nos jeunes hommes, pour protéger nos athlètes de haut niveau aussi contre toutes les cochonneries qu'on a pu voir ces dernières années, malheureusement. évidemment. C'est une sacrée belle initiative, Danny. Puis je pense que Mme Charest a placé le ballon à la ligne de 30 là, avec ça.
Ben là, elle savait exactement là où elle allait avec ce dossier-là. C'est une personne avertie déjà, c'est une Olympienne. C'est une personne qui a navigué dans les réseaux de compétition, qui connaît les situations. Donc, il y en a eu de l'abus et on veut s'assurer qu'il n'y en ait plus. Alors, ça prenait un organisme qui est indépendant. Souvent, les fédérations protègent leurs entraîneurs à tort ou à raison parce que c'est des vedettes dans leur système.
Et les victimes veulent pas dénoncer. Et les victimes dénoncent pas. Voilà.
Les victimes, les parents, c'est un système qui est très complexe. Et il y a eu beaucoup de réticence. Et moi, je pense qu'en agissant de la sorte, ben, Mme Charest a mis une structure en place qui va permettre de sanctionner ceux qui profitent de la fragilité de notre jeunesse. Et ça, faut pas que ça arrive.
Isabelle Charest, notre joueuse de la semaine, assurément. Merci, Danny. On est en fusillade. Alors, mon cher Danny, j'espère que tu es prêt. Voici maintenant Absolument. La fusillade. La méfiance que les joueurs ont envers les propriétaires de la Ligue nationale, notamment pour le salaire différé et ce qui est sur la table au niveau des propositions, est-ce que c'est justifié selon toi?
C'est non fondé en ce qui concerne les salaires en différé. Moi, je pense que la Ligue nationale, si elle s'engage à payer les joueurs de façon rétroactive sur plusieurs années, va le faire.
Est-ce que tu crois que la Ligue nationale pourra, dans les deux années qui suivront, avoir suffisamment de revenus pour retourner l'argent promis aux joueurs?
Je te dirais oui, et la raison, c'est ça s'appelle les équipes canadiennes.
Oui, ça va être encore au Canada que ça va se décider.
C'est encore au Canada que ça va se passer. Il y a une effervescence au Canada, il y a une passion, on le ressent, les gens s'ennuient du hockey, et on l'a vécu avec l'après-lockout, Martin. On croyait que ce serait difficile, au contraire, ça a été un grand succès.
Sondage athlétique.com, 95% des amateurs du Canadien croient que leur équipe est une équipe des séries pour 2021. Est-ce que l'enthousiasme est réaliste de la part des partisans sur ce point-là?
Oui, c'est réaliste et justifié. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que le Canadien, c'est une équipe qui a fait beaucoup de changements et qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour amalgamer tout ça, placer ça ensemble.
Marc Bergevin reçoit une cote de popularité inespérée à 67%, mais il y a quand même la moitié des répondants au sondage d'Athletic.com qui croient que si l'équipe rate les séries, il perdra son poste. Est-ce que tu fais partie de ceux-là?
Ben, je pense sincèrement que l'équipe est arrivée à la croisée des chemins où les résultats devront être au rendez-vous. Sinon, ben, c'est une décision qui va revenir à M. Molson.
Danny, André Tourigny, l'entraîneur d'équipe Canada Junior, a sorti le fouet pour deux joueurs importants. Dak et Cousins sont arrivés à l'heure pile à l'entraînement. Donc, à l'heure Scottie Bowman, ils étaient en retard. L'heure Scottie Bowman, là, c'est 5 minutes avant l'heure. Ça a toujours été ça. C'est une tradition au hockey. Est-ce que Tourigny a fait la bonne chose avec deux de ses leaders?
C'est deux joueurs ciblés, deux joueurs importants au sein de l'équipe. Ils se devaient de poser un geste qui allait établir le standard. Et sans standard, c'est impossible de réussir.
Dernier lancé maintenant. Le premier ministre François Legault, cette semaine, a dit on va permettre les réunions de famille, 10 personnes et moins, à Noël. Mais au jour de l'an, vous restez tranquille à la maison puis vous regardez le bye-bye. Il a oublié quelque chose. Est-ce que tu penses qu'au premier de l'an, les gens resteront tranquilles à la maison et pourront, par exemple, voir Canadiens Maple Leafs l'un contre l'autre?
Ils vont voir Canadiens Maple Leafs, mais pas le premier. Peut-être le 15.
Merci, Danny. Voilà, mesdames, messieurs, ça conclut cette autre édition de Prolongation. Je vous invite à être des nôtres parce que tout au long de la semaine, bien sûr, nous intervenons dans nos émissions partout sur le réseau Cogeco. Là. Mario en direct du lundi au vendredi. Bonsoir les sportifs avec Jérémy Rainville. En attendant, je vous donne le prochain rendez-vous déjà samedi prochain, 16h. Pour une autre édition de Prolongation, au nom de Danny Dubé, ici Martin McGuire qui vous dit bonne semaine. Merci à toute l'équipe.